Bienvenue sur la bulle des lycéens.
Cette émission a été écrite, enregistrée et montée par les lycéens de la web radio du lycée Sud-Médoc.
Aujourd'hui, Célia éclate la bulle des réseaux sociaux. Allez Célia, éclate cette bulle.
J'en ai marre d'être addict aux réseaux sociaux. J'ai tout essayé. J'ai installé des programmes de temps sans écran, j'ai activé le mode ne pas déranger et j'ai même désinstallé TikTok. Rien à faire. Mon temps d'écran ne diminue pas.
C'est la même chose pour moi.
Ben oui, vous saviez que les 15-24 ans consacrent en moyenne 2h19 aux réseaux sociaux par jour selon Mediasmart.
Ah mais c'est énorme.
Ouais, et j'ai calculé que je passe environ 8h et 46 minutes par semaine sur Instagram.
C'est un peu affolant tout ça quand même.
Oui, je perds clairement mon temps. Je sais pas, je pourrais faire tellement d'autres trucs plus utiles.
Bah oui, tu pourrais sauver les orangs-outans. Mais enfin, tu sais d'où ça vient cette addiction ?
Eh bien, en fait, Instagram a développé des réels. Ce sont de courtes vidéos avec de la musique, comme sur TikTok. Le truc, c'est que ces vidéos sont super, super addictives. Parce que l'algorithme fait exprès de proposer 24 heures sur 24 du contenu susceptible de nous plaire, comme des vidéos drôles ou par exemple des recommandations de livres. Le problème, c'est qu'on voit pas le temps passer, et les vidéos défilent sous nos yeux à toute vitesse.
Ouais, donc en gros, ça change rien, quoi.
Ben ouais, moi je suis d'accord. Mais les réseaux sociaux, quand même, c'est un moyen de se divertir et de s'évader quelques minutes.
C'est vrai, mais je trouve que c'est aussi rassurant pour chacun d'entre nous de découvrir sur les réseaux sociaux des gens qui nous ressemblent et qui ont les mêmes goûts que nous. Mais il faut pas oublier que les réseaux sociaux nous influencent au point d'oublier qui on est. En parlant de réseaux sociaux, il faut pas oublier qu'ils font des victimes.
Quelles victimes ?
Des victimes de cyberharcèlement. Et c'est d'ailleurs le sujet de notre Big Bulle aujourd'hui avec Enoa et Louise.
Vous avez dû sans doute suivre cette actualité du collégien interpellé en plein cours au mois de septembre pour des menaces de mort proférées sur les réseaux sociaux à l'encontre d'une lycéenne transgenre. Cet événement fait suite à une prise de conscience sur le harcèlement scolaire, décrété comme une cause primordiale par le fraîchement nommé ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, qui a décidé d'employer les grands moyens pour lutter contre ce fléau qui toucherait 10% des élèves français. Cette spectaculaire arrestation dans un collège francilien est la preuve de cette prise de conscience. Cependant, cette dernière peut être à bout double tranchant. D'une part, ça envoie quand même un message clair que le harcèlement transphobe, comme toutes les autres formes de harcèlement, ne sera pas toléré, qu'ils essayent de prendre ce sujet plus au sérieux. Ça peut également contribuer à rendre l'environnement scolaire plus sûr pour ces personnes, même si ce n'est pas partout pareil, malheureusement, il y a certains qui se sentent peut-être un petit peu mieux que les autorités aient au moins pris ce cas en charge de manière sérieuse. Après, le problème de faire ça en plein cours, c'est que soit l'élève va être traumatisé d'expérience et ne va arrêter son harcèlement, même s'il y a plein de séances de sensibilisation qui sont faites en plus des différentes sanctions qui peuvent être prises par le rectorat ou l'école. L'arrestation en public va encore plus affecter des problèmes mentaux, parce qu'il faut quand même avoir de sacrés problèmes pour faire ça, et renforcer le comportement de malveillance, voire de violence envers la communauté LGBT ou n'importe quel type de violence d'autres catégories d'élèves, comme sont en situation de handicap. Malheureusement, il n'existe pas encore de formule miracle contre le harcèlement, mais la prise de conscience, elle est là, et la situation ne peut que s'améliorer. On espère désormais que le gouvernement prendra des mesures concrètes, car mis à part cette interpellation, aucune mesure majeure n'a été communiquée.
Alors Enoa, le cyberharcèlement, ça représente le harcèlement via Internet. Donc ça va être les réseaux sociaux, les forums, les jeux vidéo multijoueurs, etc. Et c'est un délit. Les propos négatifs mis en cause peuvent être des commentaires d'internautes, des vidéos, des montages d'images, des messages sur des forums, etc. J'insiste sur le fait que le cyberharcèlement, c'est puni, que les échanges soient publics ou privés. Et vous pouvez aussi appeler le 3018 si vous êtes victime de cyberharcèlement. Maintenant, je vais vous parler de quelques chiffres. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, la cyberviolence touche plus souvent les filles. 21% d'entre elles déclarent avoir connu au moins une cyberviolence contre seulement 15% des garçons. Et pour illustrer ces propos, je vais vous parler de Manon Lanza. Elle est l'une des 24 pilotes présentes au GP Explorer. Le GP Explorer, c'est un événement regroupant plusieurs personnalités d'Internet dans des F4 pour une course sur le mythique circuit Bugatti du Mans. Et il est organisé par le youtubeur francophone Squeezie. Cette année, l'événement se déroulait le 9 septembre et un accident entre Manon Lanza et le streamer Maxime Biaggi a enflammé les réseaux sociaux. Les images de l'accident sont impressionnantes. Dans un virage très serré, la voiture de Manon Lanza a accroché une des roues avant de celle de Maxime Biaggi. Le choc a propulsé les deux conducteurs en dehors de la piste. Maxime s'est relativement vite arrêté, mais la voiture de Manon Lanza a été emportée bien plus loin de la piste. Et la conductrice a dû être conduite à l'hôpital. Pourtant, au lieu d'une vague de soutien pour la pilote, la pilote a reçu de nombreux messages de menaces et d'insultes de la part des spectateurs de la course. Des commentaires du style « femme au volant, mort au tournant » ou « tu fais honte au GP Explore » ont fait leur apparition. Le cyberharcèlement des femmes sur Internet, c'est pas une nouveauté malheureusement, particulièrement sur une célèbre plateforme de stream. En 2023, il est anormal qu'une influenceuse reçoive des vagues de haine aussi violentes, et ce, même si elle est à l'origine d'un accident qui a entraîné la disqualification d'une autre personne. Mais ce genre d'événement est relativement courant dans les sports mécaniques. La vidéaste, passionnée de sport extrême, s'est exprimée sur le cyberharcèlement qu'elle reçoit. Si la même chose était arrivée à un homme, il n'y aurait jamais eu de tels commentaires. On ne dit pas à Lewis Hamilton « retourne dans ta cuisine ». Squeezie s'est exprimé en live quelques jours après l'événement et y constate un écart entre le nombre de messages reçus par lui, quand il est au cœur d'une polémique, et le nombre de messages reçus par Manon. Un écart à la fois énorme dans la quantité de messages reçus et dans la forme des messages. Pour terminer, personnellement, étant présente à l'événement, j'ai été également déçue que la course ait été un peu gâchée à cause de cet accident. En revanche, Manon Lanza ne mérite absolument pas toute cette haine, car même les grands pilotes comme Verstappen ou Hamilton font des erreurs et c'est totalement normal.
Merci Louise. Tout de suite, petite pause musicale avec Freddy Dotz et son nouveau morceau « Aging ». Where did I go wrong? I'm lost inside my head. When everything around me keeps on changing. And these broken thoughts are aching. I don't like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go dim and I'm outside in, she's the only one that still feels right. And she know how it goes. One day I'm the most. Next day I'm a joke, headed down that slope. Then I float to the coast with a lump in my throat. Say, would you stand your ground if I lose mine? Even if it takes me a long time to realize that I'm wrong and I'm singing a song with lyrics that don't rhyme. I keep fading away to a place that don't feel safe. And I pray that I wake up one day. I'm falling to pieces, I'm breaking apart. Retrouve Louise et Monsieur Éloi sur la cybersécurité. Louise, c'est à toi.
Aujourd'hui, nous recevons à la bulle des lycéens Monsieur Éloi, professeur de ESI et de NSI.
Bonjour.
Merci de votre présence. Donc, on voulait vous demander, c'est quoi la cybersécurité ?
Alors, la cybersécurité, on appelle ça aussi la sécurité numérique. Donc, ce sont tous les moyens humains, techniques et virtuels qu'on va mettre en place pour lutter contre les cybermenaces. Les attaquants, en fait, parce qu'on va les appeler comme ça, vont surtout s'intéresser aux données personnelles. Donc, les menaces, ça va être en fait tous les moyens, en fait, que toutes les portes qu'on va laisser ouvertes, qui vont permettre aux attaquants, en fait, d'accéder aux informations qui sont personnelles. Ça peut être des photos, ça peut être le nom, le prénom, toutes les informations qu'on va laisser sur les différents profils, sur les réseaux sociaux, etc.
Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour justement nous protéger sur les mots de passe ou même sur l'anonymat ?
Sur les réseaux sociaux, on va dire d'être un maximum discret dans la mesure du possible, c'est-à-dire que éviter de se mettre la plupart du temps en mode privé, c'est-à-dire laisser ouvert l'espace aux personnes qu'on côtoie réellement. Si on doit laisser des informations, on va dire, un peu plus publiques, eh bien, d'essayer de cloisonner les informations les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire ne pas utiliser le même profil pour les différents sites ou même les différents réseaux sociaux, mais adopter en fait des profils, on va dire, imaginaires, pas spécialement liés aux informations réelles, ce qui va permettre de durcir un peu la tâche pour les attaquants qui ont de nombreux outils qui leur permettent d'automatiser les attaques. Notamment, la première attaque, c'est de collecter les informations sur la cible. Et donc, la plupart du temps, on utilise l'information ouverte, c'est-à-dire tout simplement des moteurs de recherche comme Google, qui, quand on sait bien les utiliser, vont permettre d'aller fouiller un peu plus profondément que ce qu'on a l'habitude de faire et d'aller récolter des photos ou des vieilles informations qui sont cachées dans le Deep Web à un moment donné. Et donc en collectant toutes ces informations-là, ça va donner en fait une surface d'attaque qui est très importante pour l'attaquant, et donc de trouver des pistes pour justement optimiser les résultats de la réussite de l'attaque. Alors sur les mots de passe, par exemple, il faut avoir une politique des mots de passe, c'est-à-dire que déjà choisir des mots de passe compliqués. Donc éviter de mettre des noms, des prénoms des animaux ou des personnes de la famille. Voilà, donc choisir des choses qui sont quasiment illisibles. Utiliser un gestionnaire de mots de passe, donc à ce moment-là, parce que ce n'est pas facile de tous les retenir. Et surtout, utiliser des mots de passe pour tous les sites différents, en fait. Donc ça, je sais que c'est très difficile à faire. Donc le gestionnaire de mots de passe sert à ça, entre autres, c'est de permettre justement de stocker de manière cryptée les mots de passe qu'on va pouvoir utiliser sur les différentes plateformes. Donc ça va permettre aussi, mais en fait, si un attaquant réussit à accéder à un de nos comptes, ça permet, il aura accès qu'aux informations de ce compte-là et il ne pourra pas, par cascade, accéder à d'autres sites utilisant les mêmes mots de passe. Parce que ça, c'est extrêmement classique. Une faille sur un mot de passe et c'est l'escalade complète. On peut avoir accès en fait à tous les sites marchands, etc. Donc l'idée principale, c'est de cloisonner les usages, quoi qu'il arrive. Tout ce qui est réseau social, on met dans une partie, on a une partie réseau social. Tout ce qui est à caractère scolaire, on le met dans le scolaire, mais ne jamais mélanger les deux. Voilà.
Eh bien, merci pour tous vos conseils.
Merci, au revoir.
Pour continuer sur la cybersécurité, on va maintenant parler du cyberharcèlement, un petit peu plus. La règle numéro 1 pour se protéger du cyberharcèlement, c'est de rester complètement anonyme. Et non, ça ne suffit pas de mettre un pseudo au lieu de son prénom, et votre mot de passe composé du nom de votre chat et de votre année de naissance, vous oubliez. Un pirate ne prendrait que 21 secondes pour connaître votre identité. En fait, le plus sûr, c'est d'utiliser un VPN. C'est un réseau privé qui va permettre de vous rendre complètement invisible en ligne. Avec ça, impossible de savoir qui vous êtes. Même le gouvernement ne pourra pas vous pister. Bon, par contre, c'est payant. Alors, c'est quoi la méthode optimale ? Moi, je vous la donne. Pour commencer, il faut que vous changiez tous vos mots de passe par des combinaisons de 14 caractères minimum. Là, vous êtes safe. Notez vos codes dans un carnet et vous le gardez toujours avec vous parce que ce carnet, on ne pourra jamais vous le pirater. Ensuite, vous roulez 20 bornes jusqu'à un McDonald's et vous connectez au Wi-Fi public. Vous allumez votre ordi et vous activez 3 ou 4 VPN différents. Maintenant, du coup, ça fait un peu cher, mais c'est pas grave. Enfin, vous créez un nouveau compte Google sans donner aucune information. Et voilà, vous avez une méthode extrêmement paranoïaque, mais totalement anonyme et sécurisée, de vous connecter à Internet. Bon, ça vous sera surtout utile si vous travaillez pour les services secrets, mais c'est toujours ça de gagner.